Frères et sœurs bien-aimés, en cette octave de la Nativité, la liturgie éternelle est comme à l'arrêt. Elle contemple durant 8 jours ce que nous avons attendu pendant le temps de l'Avent, un temps qui était là pour manifester que la vie chrétienne est une attente, l'espérance que survienne enfin le retour du Christ dans la gloire. Nous demeurons en contemplation aux côtés de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Joseph. Nous sommes figurés chacun par la pauvreté de ces bergers qui adorent le Sauveur. Dans la nuit de la Nativité, le signe qui a été donné aux bergers pour qu'ils reconnaissent l'envoyé de Dieu, le Messie, fut le suivant. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. Et à l'occasion de la nuit de la Nativité, je vous ai entretenu que ce signe manifeste déjà le mystère de la croix, annonce le sacrifice de notre Seigneur Jésus le Christ. Cet enfant emmailloté qui ne peut pas bouger est déjà le signe du Christ qui sera cette fois-ci cloué sur le bois de la croix. Il sera rendu immobile, lui de qui nous avons reçu le mouvement et la vie. Le fait que le Christ est déposé dans la mangeoire nous annonce déjà la consommation du sacrifice. Il est le pain vivant qui descend du ciel. Bethléem signifie la ville des pains, et voilà que le pain vivant nous est présenté dans une mangeoire, comme dans quelques instants, réactualisant le sacrifice du Christ sur l'autel. Nous accueillerons le Seigneur mort et ressuscité qui est venu pour que nous ayons la vie, mais la vie en abondance. Avec les bergers, nous contemplons donc l'enfant emmailloté, l'enfant déposé dans la mangeoire et au jour de Noël. L'apôtre Saint Jean, que nous fêtions hier avec toute l'Église, a réalisé un parallèle saisissant. Ce Verbe de Dieu qui se fait chair, que l'on va appeler Jésus, et l'archange Gabriel a insisté, le nom de cet enfant sera Jésus. Il a été précisé à la Vierge Marie au jour de l'Annonciation, précisé également à Saint Joseph lors de son songe, car Jésus signifie déjà sa vocation parmi nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Jésus, le Dieu Sauveur. Et voilà que ce Sauveur nous est donné à contempler tout d'abord, avant d'être ensanglanté, avant de ne même plus ressembler à un homme, nous dira Isaïe dans sa prophétie, voyant le Messie humilié, nous le contemplons dans la douceur et la bonté de celui qui nous dira « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur près de moi. Vous trouverez le repos pour vos âmes. » Avec les bergers, avec la Sainte Famille, eh bien nous demandons au Seigneur cette même douceur, cette même humilité que nous venons puiser au pied de la crèche. Saint Jean nous a présenté, à travers ce Verbe qui se fait chair, le Dieu créateur, la parole qui au commencement a dit ce que Dieu le Père avait prévu et l'a réalisé. Et Dieu, le Saint-Esprit, lui, s'est réjoui entre ce que Dieu le Père a voulu et ce que le Fils a réalisé. Tout cela était bon jusqu'à ce que nous, sommet de la création, soyons créés à son image et à sa ressemblance, et l'Esprit Saint de se congratuler, et Dieu vit que cela était très bon. Mais parce que cette bonté créatrice a été profondément blessée par le péché, voilà que Dieu, à travers les âges, a promis de nous envoyer le Sauveur. Voilà que le Dieu créateur descend lui-même en personne et se fait créature. Voilà que Dieu, dans l'éternité de la vie divine, se fait temporel et donc mortel. Telle est la loi du péché. Voilà que ce grand Dieu manifeste sa grandeur dans le paradoxe de son abaissement. Voilà aussi pour nous, orgueilleux de par le péché des origines, la solution de la vie chrétienne. Comme le dit Jean-Baptiste, il faut que chacun d'entre nous diminuions pour que lui en nous grandisse. De telle sorte, affirmera Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, le Christ vit en moi. Ce Christ, il vient réaliser sa demeure dans la pauvreté de nos crèches. Nous l'accueillons, je le disais, comme des bergers. Nous l'accueillons en nous pour qu'il puisse, lumière née de la lumière, venir resplendir dans les ténèbres de nos vies comme dans ces chemins de croix où nous l'y rencontrons. Saint Jean nous a donc présenté ce Dieu créateur qui devient notre rédempteur. Et hier, alors que nous l'honorions dans la liturgie, nous l'avons suivi jusqu'au tombeau. L'enfant emmailloté, parfaitement emmailloté, déposé par sa Sainte Mère dans la mangeoire. C'était l'ordre de ses linges. C'est la même chose qui va profondément marquer l'apôtre Saint Jean lorsqu'il rentrera au matin de Pâques à la suite de l'apôtre Pierre, bien qu'il soit arrivé premier, et qu'il va voir les linges et le suaire, non pas débraillé parce que l'on aurait voulu sortir le corps du crucifié, quel aurait été l'intérêt de sortir le linceul s'il fallait voler le corps du Seigneur à la va-vite. Il voit les linges parfaitement disposés et le corps qu'il abritait n'est plus présent. Il est ressuscité d'entre les morts. Et la liturgie de nous faire comprendre qu'entre le mystère de la nativité, celui de son incarnation, se tient déjà le sacrifice du Christ sur le bois de la croix, l'enfant est emmailloté, déposé dans la mangeoire, mais le fait qu'il soit emmailloté de façon très régulière annonce aussi le signe, et bien que ce linceul sera affaissé et que celui que nous accueillons dans sa naissance sera resplendissant au jour de sa résurrection. C'est, comme dit le cantique de Noël, le divin enfant que nous adorons ici. C'est Dieu qui s'est fait si petit, c'est Dieu qui descend sur la terre pour que nous, peuple de la terre, puissions monter auprès de Dieu. Et c'est dans cette perspective que nous entendons ce soir le sacrifice de ces innocents. L'enfant s'est incarné un jour du temps. Le roi Hérode, avec moult pots de vin, réussit par obtenir du Sénat romain la couronne d'Israël. Les Romains, envahisseurs s'il en est, laissaient toujours les rois dépossédés de leur pouvoir pour ne pas en faire justement des figures de résistance et de martyrs. On leur laisse tout l'appareil de leur gloire illusoire, pardon, puisqu'ils n'exercent plus, ou si ce n'est sur quelques contrées, leurs prérogatives royales. Hérode, peu importe, a réussi par ses pots de vin à obtenir, alors qu'il n'était pas de descendance royale, la couronne, c'est dire s'il fut généreux, aussi généreux qu'il peut être cruel. Nous connaissons déjà l'histoire de Saint Jean le Baptiste et celui qui le fit décapiter. Nous le voyons là, eh bien, trembler parce qu'il n'est pas véritablement juif, trembler parce qu'il a usurpé la couronne et qu'il ne tient sa couronne illusoire que par la bienveillance des légions romaines qui assurent une couronne illusoire, sa stabilité et son train de vie. Un nouveau roi doit venir, c'est le Messie tant attendu, au lieu de se réjouir, d'accueillir celui qui allait venir libérer Israël, mais pas libérer simplement temporellement Israël, mais délivrer le nouvel Israël que nous sommes chacun. Israël était fondé sur les 12 tribus de Jacob. Eh bien nous, nous sommes fondés, l'Église, sur les 12 apôtres de qui nous avons reçu le dépôt de la foi qui nous fait vivre aujourd'hui. Nous sommes donc le nouvel Israël et le Seigneur est venu s'incarner pour s'offrir sur le bois de la croix pour nous conduire chacun de la mort jusqu'à la vie éternelle. Eh bien, les petits-enfants qui ont été martyrisés ce jour-là, profondément innocents, la liturgie nous l'a dit, ils n'ont pas pu porter le témoignage par la parole, ils ont porté le témoignage du sang. Ce sang que notre Seigneur Jésus le Christ a reçu de la bienheureuse Vierge Marie sera ce sang versé pour que nous ayons la vie éternelle. L'enfant déposé dans la mangeoire nous parle donc du corps du Christ, ce corps livré pour nous. Et voilà qu'à travers le massacre des saints innocents, nous accueillons le sang versé. Versé pour que chacun d'entre nous, multitude créée par le bon Dieu, puissions obtenir le pardon de nos fautes. En compagnie de l'apôtre Saint Jean qui a déposé son oreille sur le cœur du Seigneur, en compagnie des bergers, eh bien, nous contemplons cet enfant Dieu. Et dans l'action de grâce, nous voyons que sous cette innocence, sous cette bonté, qui sommeille auprès de Notre-Dame et de Saint-Joseph, se tient notre Sauveur, notre Libérateur, celui dont nous attendons qu'il revienne dans la gloire. La stupéfaction des bergers à l'idée que, enfin, le Sauveur allait venir et apparaître doit être également la nôtre. Nous excitons nos âmes en ce temps de la Nativité à préparer par notre vie, par notre action chrétienne, le retour du Christ. Et en cela, nous avons Saint-Joseph pour maître. Saint-Joseph, c'est l'homme du silence. Jamais aucune parole ne nous a été rapportée de Saint-Joseph. Il est toujours en silence, il est même toujours dormant du sommeil du juste malgré les épreuves, et les anges dans son sommeil viennent lui communiquer sa mission. Il est temps de prendre avec toi l'enfant et la femme et de fuir en Égypte. Et bien voilà que Joseph, l'homme du silence, l'homme du sommeil, l'homme de la prière, est tout autant l'homme de l'action. Il se lève et accomplit la volonté de Dieu. Là aussi, c'est l'accomplissement des promesses d'Israël. Moïse avait donc quitté l'Égypte, qui est la terre de l'esclavage. Et voilà que le Seigneur Jésus se rend en Égypte dans sa vie cachée. Il va sur la terre où son peuple a été réduit à l'esclavage, mais où Dieu a manifesté sa puissance, car il est le nouveau Moïse. Il vient pas seulement nous délivrer des esclavages d'ici-bas, il vient nous délivrer de l'esclavage du péché. Sa Pâque est le passage de la mer Rouge à pied sec, où, de la mort, nous sommes conduits à la vie. Où de l'esclavage du péché, nous sommes conduits à la liberté des enfants de Dieu. C'est dans cette action de grâce que nous contemplons et adorons cet enfant qui s'offre à nous, avec Saint Joseph, silence et action pour mot d'ordre, avec la Vierge Marie. Nous gardons et méditons fidèlement chacun des événements du Seigneur. Nous comprenons alors que la joie de Noël résonne avec le scandale de la croix et la gloire de sa résurrection. Puisse-t-elle resplendir en toute notre vie, ainsi soit-il.